Je l'ai revue 3 fois cette semaine. Je vais pas encore parler, mais enfin je suis fait remarquer d'elle. La première fois, c'était mardi. C'était la symphonie héroïque. J'étais assis juste derrière elle, enfin un peu à sa droite. À un moment, elle a retiré son foulard. Alors pendant toute la soirée, j'ai regardé ses cheveux et sa nuque. J'ai pas pu la quitter du regard. Ce soir-là, j'étais décidé à lui parler. À la sortie, je me suis faufilé pour la rejoindre. Seulement, elle a rencontré une copine, alors je l'ai suivi 5 minutes, puis je suis rentré me coucher. La deuxième fois, c'était jeudi. Je suis arrivé une demi-heure en avance pour m'asseoir à côté d'elle. Il n'y avait presque personne quand je suis arrivé. Alors je suis sorti dans le hall, fumé une cigarette en attendant que la salle se remplisse. Quand je suis revenu, il y avait pas mal de monde. J'ai regardé et je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle était assise à genoux sur un fauteuil en train de parler à une copine. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle, elle m'a fait un petit signe de tête comme à quelqu'un qu'on reconnaît vaguement. Seulement, manque de peau, elle est allée s'asseoir ailleurs, dans une rangée où elle avait laissé son manteau. J'ai pas osé la rejoindre, ça serait trop remarqué. La troisième fois, c'était... c'était hier. Elle se baladait du côté de la mairie des Batignolles avec un filet à provisions. Certainement, elle doit habiter dans mon quartier.
On est loin de la Chine, là.
Oh, bah non. Lisa
Bresnay,
regardez,
non, allez-y.
Trois fois, elle l'a vue. Et après, de toute façon, c'est donc Jean-Pierre Léo dans L'amour à 20 ans. Moi, ce que j'ai adoré dans cette série de Truffaut, c'est qu'il a suivi ses personnages. Et si on écoute bien, c'est vraiment un précepte chinois qu'il suit, Jean-Pierre Léo, parce que c'est le yi sheng er, er sheng san, san sheng wan wu. C'est-à-dire du 1 naît le 2, du 2 naît le 3, et du 3 naissent les 10 000 êtres. Donc là, il a fait 3 fois, et puis maintenant, les 10 000 possibilités sont possibles.
Vous êtes sûr que vous n'êtes pas capable de retrouver la Chine partout maintenant?
Mais c'est
que
possible.
Quand vous allez acheter des carottes, vous allez trouver la Chine. Puisque...
Du moment que c'est une disposition d'esprit.
Si nous voulions aborder la question spirituelle, Lisa Bresnay, on a vu déjà, et là, ce point est important, que la Chine vous a permis de mieux comprendre, ou en tout cas de mieux accepter par rapport à la dominante de la société occidentale d'aujourd'hui, ce qui serait de l'ordre complètement instinctif, que vous avez appelé les tripes, mais ou qui est peut-être simplement une nature primordiale, quelque chose qui est tellement valorisé justement par un grand taoïste comme Chuang Tzu. Bon. Mais aussi bien les taoïstes que les confucianistes, à travers le rituel, demande aussi une certaine pratique, que ce soit des pratiques magiques chez certains ou que ce soit des pratiques presque, pour employer l'expression de quelqu'un comme Jean Lévy, d'une sorte de chorégraphie existentielle. Est-ce, pour Confucius, est-ce que vous êtes, par rapport à la culture chinoise, dans une sorte de pratique spirituelle, corporelle, qui vous permet justement d'être en meilleure compréhension du monde?
Il y a eu plusieurs moments dans mes voyages en Chine qui ont toujours été très compliqués, parce que soit il y a des drames, enfin bon. Mais j'ai eu un instant de... comment on peut dire de... Je ne peux pas parler d'illumination, mais j'avais compris ce qu'était ce souvenir d'être... Parce que chez les taoïstes, l'embryon, la respiration embryonnaire, tout ça, c'est très important. L'état, justement, de juste avant la naissance. Je suis allée à Putuoshan. Putuoshan, c'est une île au large de...
Shanghai.
Voilà, de Shanghai. Oui. Vous êtes allée aussi?
Oui.
C'est beau.
Couverte de monastères.
Voilà, couverte de monastères. Avec... En plus, quand j'y suis allée, il y avait énormément de brume. Et j'y suis restée 2 semaines. Et ça m'amusait parce qu'en fait, la plupart des gens vont et viennent, ne restent pas très, très longtemps. Ils vont se baigner ou ils vont prier ou... Ils vont manger et puis après ils repartent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de rester.
Il y a des grottes sacrées au-dessus de la falaise, elles sont magnifiques. Oui.
Et il y a un moment où il faut monter. Il y a une stèle qui est très précieuse. Enfin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je m'assois en fait dos à la stèle et j'étais obligée de m'asseoir parce que sinon je tombais. À mes pieds, c'était une nappe. Donc, cette fameuse brume que j'adore, qui est inimitable, qui est une brume comme dans la peinture. On dirait, en fait, de l'encre très, 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 très diluée. Et là, je me suis souvenue un petit peu. Enfin, c'était juste une sensation de... Comme si j'étais un bébé, un tout petit bébé. Et tout était... Et j'ai dû lutter pour ne pas aller dans le vide. C'était l'ivresse complète de cette attirance de respiration, de bonheur, de paradis perdu. Enfin. Et la deuxième fois où j'ai eu un choc, on va dire, spirituel très très fort, ça s'est passé au Japon. Donc je veux me rendre d'un temple à un autre, mais en prenant un raccourci. mal m'en prend, puisque donc, je passe par la forêt. C'était vraiment une forêt extrêmement sacrée, je ne le savais pas au départ. C'est-à-dire, quand une forêt est sacrée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y aller. C'est qu'on n'a pas le droit de toucher aux arbres. Et donc, dans cette forêt, il y avait des panneaux avec des têtes de mort partout. Et j'étais très paniquée, parce que non seulement j'essayais d'aller vite, parce que je me demandais pourquoi il y avait des têtes de mort, et plus j'allais vite, plus je me perdais. Alors mon raccourci, ça a duré genre 6 heures. J'avais pas de téléphone, j'avais pas d'eau, j'avais rien, parce que je pensais mettre 10 minutes. Donc je me suis perdue. Et cette expérience de se perdre dans une forêt où il y a des têtes de mort partout, et ces arbres, et après, à un moment, j'ai compris en fait pourquoi, enfin on m'a réexpliqué, on m'a confirmé, mais j'avais cette intuition, je me suis dit, pourquoi c'est sacré? Pourquoi c'est sacré? Pourquoi ces arbres sont sacrés? Pourquoi quand même on a le droit de se promener à nos risques et périls? C'était marqué. Et en fait, plus la nuit avançait avec les ombres, parce que là, il y avait du soleil, donc c'était trop éclatant, on ne regarde pas vraiment en haut, on regarde en bas ses pieds. Et en fait, quand le jour abaissait, les ombres des arbres sont devenues plus noires, et là, j'ai compris que toutes les branches étaient plus ou moins cassées, qu'il y avait des arbres qui étaient sur le point de tomber. Et en fait, on risquait à chaque pas de se faire briser le cou par une des branches.
C'est un peu décevant que le danger ne soit pas d'ordre spirituel, mais soit uniquement d'ordre matériel.
Oui, mais en même temps, comment j'ai échappé à ça? On m'a dit, t'es allé là-bas, mais c'est pas possible, on n'en revient pas vivant.
Mais alors, est-ce que vous sentez une présence du sacré au sein de la nature?
Alors, j'ai un rapport, de toute façon, aux éléments, où je suis très, très respectueuse, enfin... Moi, je suis...
Oui, entre respect et savoir que c'est de l'ordre du sacré, non, il y a quand même une longue passerelle.
Je ne sais pas si vous connaissez le cinéma d'animation de Hayao Miyazaki. Moi, ma dimension du sacré, elle s'apparente en fait à sa démarche. C'est-à-dire que lui, pour lui, il y a encore des dieux dans la forêt, évidemment. Il y a les esprits des loups. Enfin, toute cette nature que l'on saccage, les esprits surtout des fleuves. Il faut voir, soit dans Chihiro, dans Princesse Mononoké, c'est pas toujours du dessin animé pour enfants. Il dénonce quelque chose.
Elisa Bressner, par rapport à cela?
Elle est totalement avec Monsieur Miyazaki.
Oui, mais pour la défense de quelque chose de l'ordre du sacré, oui, j'insiste lourdement même.
Oui, j'ai enseigné à mon fils les esprits de la montagne, les esprits des rivières. On allait mettre de l'encens. Tous les matins, on allait remercier.
Il y a donc un besoin de rituel chez vous.
Ah oui. On faisait ça tous les jours.
C'est ça, donc de communion avec ces éléments.
Tout à fait.
Quelle que soit l'issue, ensuite, après la mort.
Voilà.
Peu importe.
Oui.
Ça vous est égal, qu'il y ait quelque chose ou pas?
Alors, je suis là. Enfin, pour moi, ça peut s'éteindre à chaque moment. Ça sera merveilleux. C'est vrai.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Lisa Bressner qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord un extrait de la bande originale du film La planète des singes, ensuite le monologue d'Antoine tiré du film de François Truffaut L'amour à 20 ans. Lisa Bressner est la première à y trouver quelque chose, un enseignement de philosophie chinoise. Et puis à l'heure actuelle, donc la musique d'India Song. Pour le court-métrage, donc vous avez repris, je crois, cette musique, pour le court-métrage fait par vous, Lisa Bressner, « Toi qui ne veux rien dire ».
Voilà, que je réalise au mois de janvier.
Voilà. Fort Intérieur est une émission d'Olivier Germain-Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, à la technique Georges Sautour, chargé de réalisation Didier Lagarde. Là, on va pouvoir choisir ensemble les ouvrages que nous allons conseiller aux auditeurs. Peut-être pour ceux qui aiment les charmantes coquineries, 23 délices, l'album d'un amateur aux éditions Gallimard. Moi, je conseillerais comme la traduction du vide parfait de Lietze aux éditions Rivage. Il y a le dernier qui est Tuiles intactes et jade brisée aux éditions Philippe Piquier. Pour les jeunes, pas tout à fait les enfants, mais pour les jeunes, il y a ces contes chinois, le bouvier à la tisserande. C'est un mythe en quelque sorte qui est très puissant dans la culture chinoise, japonaise ou coréenne. Donc ce sont des contes qui sont choisis et traduits par vous, publiés aux éditions 9 de l'École des loisirs. Vous voulez en rajouter un ?
Pour les enfants, un que vous n'avez pas reçu encore, Mélilotus, c'est le mystère de gouttes sèches. C'est le premier volume d'une longue série pour les adolescents.
Voilà, et j'espère que nous aurons aussi ces informations sur notre site, sur la toile. Et vous savez maintenant comment vous connecter si vous avez le désir de nous retrouver, franceculture.com. Eh bien, la semaine prochaine, qui sera le dimanche 9 novembre, le décor va assez changer, puisque mon invité sera un ancien Premier ministre, Pierre Messmer, car il se trouve que le dimanche 9 est le jour anniversaire de la disparition de Charles de Gaulle. Et nous reviendrons à la Chine avec un homme que vous admirez sûrement, puisque d'ailleurs vous le citez dans certains de vos ouvrages, Lisa Bresner. Il s'agira de Léon van der Merch, qui sera notre invité le dimanche 16. Et puis je continuerai d'ailleurs à revenir sur des questions chinoises, puisque nous sommes en train de célébrer l'année de la Chine en France. Probablement dans l'année 2004, il y aura aussi d'autres invités. Et puisque nous parlons de Chine et que nous parlons en même temps de questions concrètes, vous, ce concret s'est fait dans des montagnes mystérieuses, enfin une île ou bien une montagne mystérieuse au Japon, il y a les 15 et 16 novembre prochains, 2003, donc à l'espace Saint-Martin à Paris, au 199 bis rue Saint-Martin, dans le 3e, un stage de Qi, qui est de la méthode de Stevanovitch, qui est fait par une de ses élèves qui l'a épousée. Et pour avoir des renseignements pour ce stage, car effectivement ça permet de mieux comprendre certains aspects fondamentaux de la culture chinoise par le corps, renseignements au 06 88 31 80 06 ou bien 04 92 75 99 98. Et je vous rappelle que pour avoir les programmes de l'année de la Chine, vous avez sur la toile un site qui est bien fait, année-de-la-chine-tout-attaché.org. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.